Bonjour à tous, c'est Éric Brunet. Bienvenue dans cette collection d'entrées dans l'histoire dédiée aux salauds de l'histoire, trahison, coups tordus, crimes infâmes. De Judas à Bokassa, les salauds ne manquent pas. Pour ce nouvel épisode, direction Madagascar, dans l'océan Indien, à la rencontre d'une reine méconnue et mystérieuse, Ranavalona Ière. Au XIXe siècle, pendant ses 33 années de pouvoir, elle impose la tyrannie sur l'île. Perverse, paranoïaque, elle traque les chrétiens, mais aussi tous ceux suspectés de complot, de trahison, et qui ne veulent pas se soumettre à son autorité. Chaque année, jusqu'à 30 000 personnes sont torturées dans d'atroces souffrances à cause de Ranavalona, souveraine de fer, cruelle et xénophobe, qui décide d'expulser les Français et les Britanniques qui veulent mettre la main sur Madagascar pour exploiter ses richesses. Surnommée l'ogresse, comparée à Néron et à Caligula, deux des empereurs romains les plus sanguinaires, Ranavalona n'a pourtant pas une image si négative chez les Malgaches. Beaucoup sont même fiers de cette reine qui incarne la résistance et l'indépendance face aux envahisseurs européens. Alors, gloire nationale ou despote intransigeante, quoi qu'il en soit, Ranavalona laisse le bilan humain le plus lourd de l'histoire de Madagascar.
Entrée dans l'histoire présente les salauds de l'histoire avec Éric Brunet.
Nous sommes le 15 juin 1845, au milieu de ce 19e siècle, et trois navires de guerre, deux Français et un Britannique, débarquent sur la côte est de l'île de Madagascar. Tamatave, l'un des principaux ports du pays, point de départ des esclaves pour l'Europe, est bombardé. Ce n'est pas la première fois que les Français et que les Britanniques tentent d'entrer sur l'île qui représente un carrefour stratégique important dans l'océan Indien. Et depuis des années, de nombreux Anglais, de nombreux Français y viennent, s'y installent pour faire du commerce. Mais cette fois, contrairement aux expéditions précédentes, les soldats sont plus nombreux, car il s'agit d'une démonstration de force face à la reine de Madagascar, Ranavalona Ière. Depuis que cette femme a pris le pouvoir 17 ans plus tôt sur cette île gigantesque de Madagascar, la souveraine enchaîne les mesures de rétorsion contre les Européens présents sur l'île. La dernière en date, figurez-vous qu'elle oblige les Européens à exécuter des travaux publics sous peine d'être réduits à l'état d'esclaves. À l'annonce de ce décret, bien sûr, des commerçants inquiets pour leur avenir ont écrit au gouverneur de l'île Maurice, voisine de Madagascar, pour alerter sur la situation. Un capitaine britannique présent dans la région est même venu pour se rendre compte par lui-même du désarroi des commerçants britanniques. Et il a demandé aux autorités malgaches d'abroger cette loi. Mais face au refus de la reine et de son administration, eh bien une intervention militaire franco-britannique a donc été décidée en ce mois de juin 1845. Dans un premier temps, les soldats de la coalition pensent que la garnison de Tamatave va rapidement se rendre sous l'effet du bombardement. Mais au bout de 4 heures, les Malgaches ne se rendent toujours pas. Plus nombreux que ce que pensent les adversaires européens, ils tiennent la forteresse qui résiste aux assauts et à la surprise générale, les Malgaches lancent même une contre-attaque. Et ils arrivent à arrêter et emprisonner le capitaine d'un navire européen qu'ils réduisent tout simplement lui aussi, en esclavage. 21 soldats européens, français ou britanniques sont capturés, puis décapités, et leurs têtes sont empalées sur des pieux, puis exposées le long de la côte pour servir d'avertissement à ceux qui tenteraient, eux aussi, d'entrer sur l'île de Madagascar. Cette scène macabre va bien évidemment marquer les esprits des Européens, et celle qu'il a décidée, eh bien, c'est la reine Ranavalona Ière. Même si cette femme a une bonne cinquantaine d'années et qu'elle a de l'embonpoint, on devine qu'elle a été une très belle reine. Elle a le visage rond, un nez fin, des petits yeux et des lèvres très fines. Elle est très élégante d'ailleurs, Ranavalona Ière. Elle aime les longues robes aux couleurs vives. Sa robe préférée est verte et elle porte des petits nœuds sur le devant. La reine de Madagascar adore aussi les bijoux. Elle porte des colliers, de grandes boucles d'oreilles en or, sans oublier sa précieuse couronne posée sur ses cheveux tressés, un diadème tout en or doublé de velours grenat, orné de pierres précieuses et d'une dent de crocodile. Cette magnifique couronne a d'ailleurs été offerte par la reine Victoria d'Angleterre, la première au monde à reconnaître la monarchie malgache. Mais avec cette nouvelle invasion sur les terres malgaches, Ranavalona Ier ne veut plus entendre parler d'une quelconque amitié avec la reine Victoria et l'Angleterre. Bien au contraire, elle redouble de cruauté et Madagascar va se fermer davantage encore aux rares commerçants britanniques ou français restés sur l'île, contraints de payer une forte somme pour rembourser les dégâts matériels causés par l'intervention navale franco-britannique. Alors avant de trancher le débat, cette reine a-t-elle été une résistante à l'impérialisme européen ou une femme d'une cruauté gigantesque inégalée sur cette île de Madagascar? Avant donc de trancher ce débat, intéressons-nous à cette personnalité. Ramavo est né vers 1788, pour se repérer, on est aux prémices de la Révolution française, hein, à une vingtaine de kilomètres de la capitale malgache, Antananarivo. Elle est fille d'une cousine du roi au pouvoir et elle est adoptée par la sœur aînée de ce dernier, de ce roi. Elle est élevée au sein même de la haute aristocratie malgache. Et elle va être désignée pour épouser le futur roi, Radama. Elle devient reine consort à l'âge de 22 ans quand son mari monte sur le trône. Et ce mari, justement, prend pour modèle Napoléon Ier, Radama Ier. Il modernise Madagascar et il ouvre l'île à la civilisation occidentale. Mais comment dire les choses? Pour Ramavo, cette union n'est pas vraiment joyeuse, car son époux, le roi, possède un harem. Et dans ce harem, il a 12 épouses. Et la reine ne fait pas partie de ses favorites. Cet abandon nourrit chez elle une soif de revanche. Et en 1828, à la mort de son mari, de Radama Ier, c'est le neveu de Radama qui doit lui succéder. Mais Ramavo craint pour sa position à la cour. Et pour arriver à ses fins, elle mobilise la puissante oligarchie malgache, les courtisans, les officiers supérieurs, tous les grands commis du royaume malgache, les magistrats, les juges, les chefs de clans puissants. Elle va tisser un réseau pour faire pression sur l'aristocratie qui a peur de représailles. Et finalement, c'est sans résistance que Ramavo va se proclamer reine sous le nom de Ranavalona Ier. Très vite, elle lance une vague d'exécutions dans les rangs de la famille royale. Elle élimine tous les prétendants, à commencer par l'héritier légitime qui devait succéder à Radama Ier, ainsi que ses parents. Elle fait également arrêter un amant qui l'a laissé tomber pour une autre femme. L'infortuné va finir avec une lance enfoncée dans la gorge. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'un règne où la terreur va s'abattre sur toute l'île de Madagascar. Alors sur le plan politique, économique, au début, le règne de Ranavalona Ier s'inscrit un peu dans la lignée de feu son époux. Elle continue l'expansion territoriale, elle lance des expéditions pour pacifier les territoires conquis et elle poursuit la politique de modernisation de l'île dans les domaines de l'armement, de l'agriculture et de l'industrie. Grâce à un ingénieur français, Jean Laborde, qui a fait naufrage sur l'île de Madagascar et qui devient son plus proche conseiller, la reine crée une fonderie, une verrerie, une papeterie, une sucrerie, une savonnerie, mais aussi une usine d'armement et de textile. Ce développement économique permet à Ranavalona Ier de devenir très populaire dans son pays. Malgré cette entreprise de modernisation, Ranavalona s'attache à préserver les traditions ancestrales de la société malgache. Elle répète souvent, je cite, « Je ne ressens ni honte ni crainte au sujet des coutumes de mes ancêtres ». Et elle voit d'un très mauvais œil les incursions fréquentes des Français et des Britanniques sur l'île, surtout celles venues d'Angleterre. Un traité signé par le prédécesseur de Ranavalona a permis de mettre fin à l'esclavage sur l'île en contrepartie d'une assistance financière, technique et militaire de Londres qui a permis d'unifier une grande partie du royaume et de chasser au passage les derniers Français présents sur place. Alors sur le papier, ce traité entre Londres et Madagascar est plutôt louable. Sauf que les Anglais vont prendre leurs aises. Ils envoient à Madagascar des missionnaires protestants, non pas seulement pour instruire les jeunes malgaches, ce que la reine d'ailleurs au passage apprécie plutôt, mais pour évangéliser l'île et mettre fin progressivement aux traditions ancestrales et donc à l'indépendance de Madagascar. La disparition de la culture malgache, des traditions malgaches, inquiète beaucoup la reine. Et comme elle est convaincue d'avoir été sauvée par les talismans malgaches à la suite d'une grave maladie qui a failli l'emporter, eh bien, la souveraine décide qu'elle se battra vaille que vaille pour préserver les traditions héritées du passé et pour éradiquer toute influence occidentale. Alors, elle décrète l'interdiction du christianisme et les missionnaires sont expulsés. Les malgaches convertis sont considérés comme des traîtres à la terre ancestrale. Ils sont traqués et torturés par l'administration et la police de la reine. Ils sont jetés du haut des falaises, bouillis vivants, crucifiés. Alors la reine Ranavalona Ière organise des jugements en place publique au cours desquels les chrétiens qui ont dû jeûner la veille pendant 24 heures sont obligés de boire du poison et d'avaler 3 morceaux de peau de poulet. C'est très simple, s'ils vomissent les bouts de peau, eh bien ils sont innocents, sinon ils sont coupables. Jusqu'à 10 000 malgaches vont mourir de ce terrible châtiment. La brutalité de Ranavalona Ière ne s'abat pas que sur les chrétiens. Elle met en place un système de travaux forcés. Du jour au lendemain, les hommes, les femmes, en majorité plus pauvres, sont sélectionnés et doivent quitter leur village de case en pleine montagne ou en forêt pour devenir soldats ou porteurs pour la reine et sa sœur. D'autres travaillent sur des chantiers interminables et harassants, comme la construction du palais d'été de la reine en altitude. Ils sont contraints de porter de lourds blocs de pierre sur des dizaines de kilomètres. Ranavalona Ière n'a aucune pitié. Les femmes enceintes doivent continuer de travailler, même quand elles sont sur le point d'accoucher. Quand les paysans sont trop fatigués, ils sont abandonnés et meurent de faim le long des routes. Ils ne sont pas enterrés et leurs cadavres pourrissent à ciel ouvert. En poursuivant l'expansion territoriale du royaume, la reine décime aussi les tribus hostiles des provinces rebelles. Son armée ne fait pas de quartier avec un lot d'actes obscènes. Les enfants sont décapités devant leurs parents, les femmes enceintes sont éventrées, des familles enfermées et brûlées vives dans leurs maisons, des hommes capturés, réduits en esclavage. Après 25 années de règne de Ranavalona Ière, le royaume de Madagascar vit dans la terreur, il est quasiment coupé du monde et l'économie de l'île est en ruine. Du coup, la souveraine décide de remettre au goût du jour la traite des esclaves avec l'Europe. Mais ce business ne compense pas la quasi-disparition des échanges commerciaux avec l'Angleterre, avec la France et les autres pays européens. Et beaucoup d'esclaves malgaches en partance vers l'Europe n'atteindront jamais leur destination. La population malgache meurt aussi de faim à cause de plusieurs vagues de sécheresse consécutives. Du coup, la population de l'île est divisée par deux, passant de 5 millions à 2 millions et demi d'habitants en ce milieu du 19e siècle. La reine Ranavalona Ière est de plus en plus paranoïaque et un tout petit rien peut déclencher son courroux. Un serveur qui fait tomber un plat par terre ou une dame de compagnie qui ne lui revient pas sont immédiatement exécutés. La reine peut aussi ordonner la mort si elle juge avoir été regardée de travers et elle interprète tout comme un signe suspect, une vision dans un rêve ou la forme étrange d'un nuage. Ranavalona Ière prend tout un tas de décisions absurdes. Elle interdit la couleur pourpre sur l'île, qui selon elle porte malheur. Un jour même, elle ordonne à toute la cour de participer à une chasse au rhinocéros, alors que l'animal n'existe pas à Madagascar. Des centaines de personnes meurent, épuisées par l'inutile recherche du mammifère. Mais, et c'est ce qui arrive souvent à la fin des dictatures sanglantes, une conspiration se trame pour évincer Ranavalona Ière. Le fils de la reine, héritier du trône, se rapproche d'un entrepreneur français, Lambert. Il est assez proche de la souveraine, d'ailleurs. Ensemble, les deux hommes scellent un accord à l'insu de la reine. Le Français exploite les ressources naturelles et engrange des soutiens pour que l'héritier dépose sa mère et prenne le pouvoir afin de mettre fin à 30 ans de barbarie. Mais Lambert et le fils de Rana Valona Ier vont plus vite que la musique. Ils mettent en place un coup d'État sans réunir assez d'appui et la reine a vent du complot qui se trame dans son dos. Furieuse, elle ordonne l'expulsion de tous les Européens présents sur l'île et la confiscation de leurs biens. Du coup, dans la foulée, Rana Valona Ier lance une nouvelle vague de répression. Elle ordonne l'assassinat des malgaches chrétiens et de toute personne suspectée de trahison et de sorcellerie. Un jour de l'année 1861, la reine se réveille en sursaut, toute transpirante de sueur. Elle a une hallucination. Elle voit des démons et elle hurle. Ils viennent me chercher avec des chaînes de feu. Puis, dans un cri d'effroi, la reine meurt. Rana Valona Ier avait 73 ans. Au moment de ses funérailles, une étincelle enflamme accidentellement un baril de poudre à canon destiné à être utilisé lors de la cérémonie, provoquant une explosion gigantesque et l'incendie d'un palais du complexe royal fortifié de la colline d'Amboimanga, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Beaucoup de malgaches voient dans cet accident qui fait plusieurs morts la preuve que l'esprit maléfique de la reine survit même après sa disparition. Du coup, la souveraine défunte est enterrée avec de nombreuses amulettes afin que son âme ne s'échappe pas et qu'elle ne vienne pas hanter les vivants. En tout cas, depuis sa mort, à défaut d'occuper les esprits, Rana Valona Ier n'a jamais quitté l'histoire de Madagascar et plus récemment, la reine a fait parler d'elle car sa couronne a disparu, figurez-vous. Ça s'est passé en 2011 dans l'ancien palais du Premier ministre dans la capitale Antananarivo où sont conservés les souvenirs de la dynastie régnante à Madagascar au 19e siècle. C'était en 2011 et depuis, le vol de cette prestigieuse couronne n'a jamais été élucidé. D'ailleurs, les rumeurs vont bon train. Certains prétendent que la couronne de Rana Valona Ier est en France. D'autres disent qu'elle est chez un collectionneur, à l'étranger quelque part, et qu'elle réapparaîtra un jour dans un inventaire ou un catalogue de vente aux enchères. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré à cette reine malgache très peu connue dans l'histoire du monde, mais qui mérite sa place dans notre collection des salauds de l'histoire. Trahison, coup tordu, crimes infâmes de Judas à Bokassa. Vous l'avez compris, les salauds ne manquent pas. Merci à Christophe Dard, à Marie-Pierre Haddad, merci à Étienne Villan et Olivier Masson à la réalisation. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous, à m'écrire un commentaire. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très bientôt les amis.